Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Une messe dans la petite église Sainte-Anne au Vatican et le premier angélus du pape François, avec pour fil conducteur la miséricorde en ce cinquième dimanche de carême. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, a déclaré le pape, c'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. Un pape François simple, direct au contact des gens, c'est une atmosphère des plus chaleureuses qui a enveloppé la place Saint-Pierre ce dimanche. Dans la seconde partie de ce magazine, l'invité de sœur Catherine Aubin sera le père Pedro, argentin comme le pape, il vit au milieu des pauvres à Madagascar. Samedi, le pape François aux journalistes parlait, il est vrai, de son désir d'une église pauvre. Pour les pauvres. Un premier angélus du pape François très attendu et très réussi, ovationné par une foule enthousiaste de quelques 150 000 personnes ce dimanche pour ce premier rendez-vous avec la foule place Saint-Pierre depuis qu'il a été élu mercredi soir. Premier rendez-vous depuis la fenêtre de ses futurs appartements. Une fois encore des mots simples qui vont droit au cœur, des mots forts qui vous interpellent. Olivier Bonnel.
Buongiorno.
Bonjour. Après notre première rencontre de mercredi, je suis heureux de vous saluer ce dimanche, le jour du Seigneur, sur une place qui, grâce aux médias, a les dimensions du monde. Voilà pour ces premiers mots après avoir été accueilli par une grande clameur de la foule. Commentant l'évangile de ce cinquième dimanche de carême et l'épisode de la femme adultère, le pape nous parlait alors de la miséricorde, soulignant combien les mots de Jésus expriment l'amour et ne condamnent pas.
Ce qui frappe, c'est l'attitude de Jésus. Nous n'entendons pas des paroles de mépris ni de condamnation, mais seulement des paroles d'amour, de miséricorde, qui invitent à la conversion.
Sentir la miséricorde est ce qu'il y a de mieux à entendre. Cela change le monde, devait-il souligner en reprenant un livre du cardinal allemand Walter Kasper qu'il a récemment lu. Dans son style très personnel et très direct, le pape François a aussi fait part de ses souvenirs pour mieux illustrer sa catéchèse, comme cette rencontre avec une dame âgée en 1992 alors qu'il était évêque depuis peu, au cours d'une messe en l'honneur de la Vierge de Fatima à Buenos Aires. Cette dame lui explique que Dieu pardonne à tous, car tous les hommes ont péché. Si le Seigneur ne pardonnait pas tout, le monde n'existerait pas, lui expliquait cette femme.
Dio mai se stanca di perdonarci.
Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon.
Ma noi, dalle volte, ci stanchiamo.
Un peu de miséricorde change le monde, rend le monde moins froid et plus juste, a poursuivi le pape François. Avez-vous pensé à la patience de Dieu, a-t-il demandé aux fidèles, à la patience qu'il a avec chacun de nous. Jorge Bergoglio, argentin mais dont la famille a des racines piémontaises, est aussi revenu sur le nom qu'il a choisi. J'ai choisi le nom du patron de l'Italie, François d'Assise, et cela renforce mon lien spirituel avec cette terre où vous savez que se trouvent les origines de ma famille.
À la fin de la prière de l'Angélus, le pape a adressé alors un salut à tous les pèlerins et comme mercredi soir depuis la loggia de Saint-Pierre, juste après son élection, François a demandé à la foule de prier pour lui. « Priez pour moi, je vous le demande », avant de lancer « Bon dimanche, bon déjeuner », fidèle à ce qui fait déjà son style, à savoir bonhomie et simplicité dans les gestes, pour un discours clair et exigeant. Le pape François avait avant l'Angélus célébré sa première messe publique dans la petite église Sainte-Anne au Vatican et prononcé une nouvelle fois une homélie improvisée centrée sur la miséricorde de Dieu. Le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner, assurait le pape, pointant du doigt au contraire la lassitude des hommes qui ne demandent pas pardon, un thème qu'il déclinait donc ensuite lors de l'Angélus, nous venons d'en parler. Et au terme de cette messe, le pape a fait comprendre qu'il ne voulait pas parler de lui et a fait monter alors à ses côtés un prêtre travaillant en Uruguay qui l'a présenté aux fidèles. Je voudrais vous faire connaître ce prêtre qui travaille depuis longtemps avec les enfants des rues, qui a fait une école et tant de choses pour leur faire connaître Jésus. Viens Gonzalo, a lancé le pape avant d'inviter les fidèles à prier pour ce dernier. Au terme de la messe encore, il s'est livré un véritable bain de foule aux portes du Vatican. Le pape a tout bonnement embrassé et salué tous les fidèles présents à la messe, tel un curé de paroisse prenant du temps avec les enfants. Puis à la grande surprise de sa sécurité, il a décidé d'aller même saluer les personnes qui l'attendaient dans la rue au pied de la porte Sainte-Anne et a serré là de très nombreuses mains, saluer saluée par des cris de joie. C'est donc une atmosphère des plus chaleureuses qui a enveloppé ce dimanche les abords de la place Saint-Pierre, où Jean-Baptiste Cocagne a recueilli de nombreux témoignages.
Ambiance de fête, place Saint-Pierre, après l'Angélus. Beaucoup de gens prennent plaisir à rester sur la place et la joie se lit sur les visages.
J'ai trouvé ça très très beau. On prend contact avec cet homme et puis on découvre celui qui va guider la barque de Saint-Pierre. Le pape s'est adressé avec beaucoup de simplicité à tout le monde, pour tous les pêcheurs en fait, tout ce monde en fait qui est place Saint-Pierre, catholique ou non d'ailleurs, tout le monde est concerné.
Le Saint-Esprit a fait qu'avec un Jean-Paul II, la jeunesse a repris sa fierté d'être chrétien, d'être catholique. Avec Benoît XVI, de revenir sur la foi, de l'intérioriser, de mieux la comprendre, de l'approfondir. Et il semblerait qu'avec le pape François, cette foi qui a été approfondie, il faut maintenant la porter au monde, l'extérioriser.
Pour ma part, le message a été assez fort, parce que le pardon, c'est quelque chose de très difficile. Mais il faut qu'on apprenne à pardonner. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être poignant pour tout le monde. C'est le message que je leur amène à Paris. Je rentre jeudi, et mon message ce sera celui que j'ai reçu ici aujourd'hui.
Le message simple du pape François a touché directement les fidèles. La miséricorde, le pardon sont des thèmes universels. Dans la foule, il n'y avait d'ailleurs pas que des catholiques. Ali, par exemple, est musulman et il a brandi pendant tout l'Angélus le drapeau de son pays, la Syrie.
Je suis venu ici pour montrer que je suis syrien, que je suis là et que je veux la paix pour mon pays. J'espère que le pape a vu mon drapeau et qu'il remarquera mon pays et la situation là-bas. Peut-être qu'il pourra jouer un rôle positif pour arrêter la guerre en Syrie.
Le pape François, même s'il ne s'est exprimé qu'en italien, a su se faire comprendre par tous, touché par la simplicité et l'humilité de son discours. Son pontificat s'ouvre avec le message d'une Église universelle.
Et c'est samedi prochain, rappelons-le, que François rendra visite à Benoît XVI, un peu plus d'une semaine après son accession au trône de Pierre. Le 23 mars, le pape partira du Vatican vers midi en hélicoptère pour se rendre à Castel Gandolfo et déjeuner avec Benoît XVI, offrant alors l'image inédite de deux papes qui se rencontrent. Mais avant cela, le programme est chargé. Ainsi, ce lundi déjà, le pape François, à 12h50, rencontrera la présidente de la République d'Argentine, Cristina Kirchner, à la maison Sainte-Marthe, au Vatican. L'on sait que le cardinal Bergoglio, à la tête du diocèse de Buenos Aires, a dénoncé à diverses reprises la politique menée par le gouvernement de Cristina Kirchner. Jorge Bergoglio s'est notamment fortement opposé au mariage homosexuel légal en Argentine depuis 2010. Mais le rendez-vous que tout le monde attend, c'est évidemment mardi. Fête de Saint-Joseph, patron de l'Église, le pape François présidera à 9h30 place Saint-Pierre la messe d'inauguration de son pontificat en présence de fidèles venus du monde entier et de très nombreux chefs d'État et de responsables religieux. À la fin de la messe, il saluera les chefs des délégations officielles devant l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre. On avance le chiffre d'1 million de personnes attendues pour l'occasion. Et dès mercredi à 11h, le pape François recevra là en audience les délégués fraternels, c'est-à-dire les représentants des autres églises chrétiennes, dont le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier. Deux jours plus tard, ce sera cette fois au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège d'être reçu par le nouveau pape. On y attend sa vision de la politique internationale du Saint-Siège. Le dimanche enfin, le pape François présidera la messe des Rameaux, la première célébration de la Semaine Sainte. Une église pauvre pour les pauvres, déclarait samedi le pape François. Comme lui, l'invité de ce dimanche est né en Argentine et se place du côté des plus vulnérables. Le père Pedro Opeca est prêtre et vit au milieu des pauvres. C'est en 89 que ses supérieurs le nomment à Tananarive, la capitale malgache, pour diriger un séminaire. Une autre histoire commence. Le père Pedro ne peut rester impassible devant la misère des milliers de sans-abri de la capitale qui vivent dans des conditions humaines révoltantes, dans la rue ou sur des décharges d'ordures. Il crée alors des liens de confiance et d'amitié avec ses pauvres, et c'est là que va naître l'association Acamasoa. Sœur Catherine Aubin a rencontré le père Pedro. Ils discutent de ses objectifs lorsqu'il parcourt l'Europe.
Père Pedro, nous avons la chance de vous recevoir à Rome. Vous êtes en Europe pour quelques jours. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Européens gardent de votre venue en Europe ?
Ce que je voudrais transmettre à mes frères en Europe et sœurs, c'est que ce que nous vivons en Madagascar et en Afrique, c'est une vie vraiment très très difficile, voire dramatique. Et qu'aujourd'hui, avec tant de moyens, avec tant de progrès, c'est impossible qu'on puisse abandonner, oublier tout un continent comme c'est l'Afrique et Madagascar. Et que ce n'est pas normal que notre monde, où nous sommes tellement unis qu'on sait tout de suite de ce qui se passe sur notre terre, comment quand les gens ne savent pas Comment que les gens ne se rendent pas compte que nous avons en Afrique, à Madagascar, des millions d'enfants qui ne mangent pas à sa faim, des millions d'enfants qui sont sous-alimentés, qui ont faim et qui vivent dans des situations inhumaines. Alors voilà, en tant que missionnaire, en tant qu'homme d'église, en tant qu'homme de terrain, je viens en Europe pour réveiller un peu les consciences et dire à mes frères en Europe, ceux qui m'écoutent dans les conférences, dans les témoignages que je fais, on ne peut pas faire semblant de ne pas connaître la réalité de notre terre, de notre monde aujourd'hui, où des millions d'enfants et des familles doivent croupir dans la misère extrême, dans la pauvreté extrême. Alors, nous avons trouvé une solution. Et c'est pour ça que je viens ici, à réveiller les consciences, à dire, aidez-nous, aidez les missionnaires, aidez tous les missionnaires que vous connaissez en Afrique et à Madagascar, pour qu'ils puissent faire quelque chose là où ils travaillent.
Père Pedro, il y a un nom qui est associé à vous, Akamasoa. Qu'est-ce que ça veut dire?
Akamasu, c'est c'est l'association que nous avons créée à Madagascar pour lutter contre cette pauvreté extrême, que ça veut dire en langue malgache « les bons amis ». Parce que pour lutter avec une telle ampleur contre cette pauvreté, il fallait se constituer dans une association pour être face à l'État crédible, pour être face à l'État une personne juridique qui a son existence. Mais nous avons dépassé l'association, nous avons dépassé l'ONG que nous sommes, parce que nous avons cassé de tous les côtés cette moule qui s'appelle ONG Association, parce qu'on fait tant de choses qu'on ne peut pas imaginer. On fait tout pour sauver une famille qui vient de la rue. On lui a aidé à scolariser son enfant. On a aidé à créer des emplois pour les parents. On a construit des logements dignes pour ces familles. On a fait l'environnement. On a créé des routes. On a fait le réseau d'eau potable, l'énergie. On a créé toute une ville pour les pauvres.
Alors quand vous dites, Père Pedro, nous avons cassé les moules, comment avez-vous fait?
Parce que devant l'urgence, vous ne pouvez pas dire, quand une maman vient avec 7, 8 enfants, et il vous dit, mais aidez-moi mon père, aidez-moi, je voudrais sortir de la rue, je voudrais donner un avenir à mes enfants. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, écoutez, je n'ai pas le moyen, revenez dans une semaine, dans un mois, je vais faire un projet pour vous. Non, il faut l'aider tout de suite. Alors voilà, à chaque problème, nous avons voulu répondre tout de suite.
Alors Père Pedro, vous ne dites jamais je, vous dites nous. C'est qui ce nous, Père Pedro?
C'est nous, c'est les 450 collaborateurs, frères et sœurs malgaches, jeunes malgaches, des professeurs, des instituteurs, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des responsables, des assistantes sociales qui font ce groupe, ce mouvement d'Akamasu. Et nous travaillons en équipe. Bien sûr, il y a une tête. À Madagascar, on dit qu'une bête qui n'a pas de tête ne marche pas. Mais une tête tout seul ne peut rien faire non plus. Alors il faut la tête et le corps. Et la tête et le corps fait un tout, fait un corps entier. C'est pour cela que je suis heureux, heureux d'avoir découvert ces 450 amis, frères, sœurs, malgaches, qui ont dit, nous aussi, nous voulons aider notre peuple. C'est notre peuple. Si toi, mon père, tu viens ici dans notre pays, aider nos enfants, les familles les plus pauvres, comment nous, on va rester des côtés? Comment nous, on va te regarder? On veut être à tes côtés. On veut travailler ensemble pour qu'on puisse vaincre la pauvreté. Voilà, je suis heureux d'avoir trouvé ces jeunes malgaches.
Akamasu, ça commence aussi par la lettre A, et je sais qu'il y a un autre mot dans votre vie qui est très important, Akamasu, mais aussi alliance.
Dieu fait toujours alliance avec nous, mais ce jour, quand j'étais à la décharge, où j'ai vu l'horreur, où j'ai vu l'inhumain, où j'ai vu l'injustice, quand un millier d'enfants s'est disputé les ordures avec des animaux, là, ce jour-là, ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levé à genoux sur mon lit, j'ai fait alliance à Dieu. J'ai dit, Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces milliers d'enfants et ces parents. Alors, j'ai senti une force qui m'était donnée. Je n'étais pas connu, je n'avais pas des moyens, je n'avais pas d'argent. Mais j'avais la foi, la passion, la conviction de que Dieu n'abandonne jamais le plus pauvre. Voilà. Mais c'est que Dieu n'a pas des pieds, Dieu n'a pas des mains, Dieu n'a pas des bouches. Mais c'est à travers nos pieds, nos mains et nos bouches que Dieu agit. Alors voilà, j'ai senti ce soir que Dieu m'a pris entre ses mains et qu'il m'a dit, allez, mets-toi debout et marche.
Dans votre action à Akamatsu, il y a des piliers, le travail, l'école et la discipline. Et vous parlez aussi de loi, écouter, faire ce que l'on dit. Vous pouvez nous en parler de ces grandes règles, mais qui ne sont pas des règles, mais qui sont pour des règles de croissance, on peut dire.
Oui, quand on veut vivre ensemble, surtout avec une communauté de pauvres, il faut mettre les cartes sur table. On ne vient pas là faire la charité, on ne vient pas là pour les assister, on vient là en tant qu'humain, en tant que frère, devant un autre humain, et que cet autre humain qui est là, abandonné, oublié par toute la société et par les gouvernements, eh bien on dit, hé mon frère, je suis ton frère aussi. On est tous les deux des humains. Là où tu vis, ce n'est pas normal, c'est injuste. On vient là pour te donner la main et on va s'en sortir ensemble. Est-ce que tu aimes tes enfants ? Parce qu'il faut quand même, l'homme, l'être humain, s'habitue au pire. Alors, pour déclencher en lui un sursaut, il faut toucher là où ça les fait, ça les touche, ça les, où est très sensible. Et c'est quoi ? Ce sont ses enfants. Je dis, est-ce que tu as eu tes enfants pour qu'ils soient dans, pour qu'ils meurent dans la décharge aussi ? Est-ce que tu as eu ces enfants pour qu'ils soient plus pauvres que toi ? Ah non, non. Et tu as eu des enfants, et combien sont déjà morts ici, dans ces déserts ? Tu veux que ceux qui sont encore vivants meurent aussi ? Non. Alors je dis, mets-toi debout, viens, on va travailler, on va travailler, et avec le travail, on va s'en sortir. Et les enfants, on va les scolariser. Il faut qu'ils s'instruisent, il faut qu'ils préparent leur avenir. Mais si nous voulons aussi travailler ensemble, il faut que nous ayons un minimum de discipline, un minimum des lois qui nous unissent, où tous nous sommes obligés de tenir compte. Eh bien, ces lois, c'est nous qui les faisons tous ensemble. Et ils ont dit, oui, c'est le bon sens. En fait, c'est le bon sens que je les ai dit. Et après, et bien sûr, moi, quand je viens, je ne peux pas venir comme ça et donner des leçons. Je dois les écouter d'abord. Mais j'ai écouté les pauvres à Madagascar 15 ans. Avant de commencer à Kamasu, j'étais 15 ans à Madagascar. J'ai fait un noviciat de 15 ans. J'ai regardé, j'ai vivé avec eux, j'ai les écouté. Et voilà que Dieu m'a préparé à l'intérieur. Même pas préparé pour un autre travail. Et j'apprenais la langue, j'apprenais leur mentalité et leur tradition. Et voilà que le jour est venu où Dieu m'a poussé sous l'une des charges et dit « Maintenant, allez, travaille maintenant. »
Il y a un aspect sur lequel vous insistez beaucoup aussi, c'est le respect de la culture locale.
Bien sûr.
De l'esprit de la culture.
Bien sûr, on ne peut pas. Chaque pays, chaque peuple a sa culture. Et sa culture, c'est ce qu'il a fait qu'il soit un être humain. C'est ce qu'il a fait qu'il a duré dans le temps, qu'il a duré durant les siècles. Et c'est cette culture, ce n'est pas seulement un habit, c'est ce qui fait qu'il soit un être humain, qui communique avec un autre humain. Et qu'il a gardé la joie de vivre, qu'il a gardé la communion avec ses frères du même pays, de la même tribu. Alors, il faut tenir compte de cela. Moi, je dois, à ce moment-là, c'est moi qui dois me détacher de ma propre culture, épouser la leur. Vous savez, à ce moment-là, vous êtes presque de nulle part. Mais cet amour fait, puisque je vis avec eux et je suis tout seul, je dois vivre dans leur culture. Et leur culture doit devenir comme ma culture. Et c'est pour cela qu'ils vous accueillent. Parce qu'ils disent, il aime notre façon de parler. Il aime notre façon de vivre. Il aime notre façon de recevoir les gens. Alors, il nous respecte. Ils vont dire, mais tu es un de nous. Tu es un de nous. Je n'ai jamais prétendu être malgache. Mais quand c'est eux qui m'ont dit, mon père, tu es un d'entre nous. Quand un roi d'une tribu où j'ai travaillé 15 ans me dit, tu es un de nos fils. Tu es fils de notre tribu. J'ai dit, merci. Mais je ne dois jamais moi-même m'approprier cela. Ce sont eux qui doivent me dire si oui ou non, je fais partie de leur famille, et pas moi.
Ainsi prend fin ce magazine. Rappelez-vous notre site internet www.radiovaticana.va et puis vous pouvez nous retrouver sur Facebook en tapant Radio Vatican en français. N'oubliez pas non plus nos applications sur téléphone portable. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain, où que vous soyez.